Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Soutenir financièrement les initiatives d'encadrement des enfants de la rue, surtout dans les villes de l'Est affectées par l'insécurité, c'est la demande de l'ONG Ville Propre Service au gouvernement de la RDC. Pour cette ONG basée en Ituri, cela pourra ainsi limiter l'expansion du phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur à Kinshasa, la capitale. Hervé Abandoundouville se plaint de la spoliation d'une partie de sa concession par des personnes qui, selon elle, restent encore non identifiées. Son commandant Portas Makolo demande aux autorités compétentes de mener des enquêtes pour arrêter ses expropriateurs. Professeur Jean-Pierre Lifo-Libalea est l'invité de ce journal. Le secrétaire rapporteur et président intérimaire de l'Association des professeurs de l'Université de Kisangani va parler de la collaboration entre son institution et l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa, première université officielle du pays. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. En Ituri, l'ONG Ville Propre Service demande au gouvernement de la RDC de soutenir financièrement les initiatives d'encadrement des enfants de la rue, surtout dans les villes de l'Est affectées par l'insécurité. C'est pour éviter l'expansion du phénomène Kuluna qui prend de l'ampleur à Kinshasa, la capitale. Selon le coordonnateur de cette structure, dans certaines villes du pays, dont Bunia, ces enfants constituent une bombe à retardement. Dieudonné Maki lance un appel au gouvernement central pour appuyer les organisations qui encadre ces enfants de la rue à travers, entre autres, des formations en mécanique, coupe et couture ou encore à travers le recyclage des déchets. Il le dit au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Plus de 1000 personnes, on peut les utiliser parce que d'abord, ces jeunes gens-là, ils sont disponibles, ils sont nombreux dans la ville et non seulement ils sont nombreux, mais même les plastiques-là, il y en a en quantité et on peut les utiliser pour les ramasser même en une semaine, on nettoie la ville, mais on est buté à un problème de financement. Parfois, on leur demande de nous amener les déchets, mais c'est à contrepartie de l'argent. Ils vous amènent 1 kilo, vous lui remettez 200 francs. Imaginez si vous avez besoin de 10 000 kilos, ça demande de l'argent. Je passerai une solution durable serait seulement d'appuyer les structures qui encadrent ces jeunes gens. Au lieu d'aller les amener, les massacrer, hein, parce qu'il y a plusieurs raisons pour que ces jeunes gens se trouvent à la rue. Aujourd'hui, nous avons décidé de déplacer ici à ville de Bounia. Et est-ce qu'il faut se permettre de les ramasser maintenant? Vous êtes de Kuluna, on va vous amener pour l'emprisonnement. Non, parce qu'il y a des moyens qu'on oriente mal dans ce pays. Il y a des lignes budgétaires qu'on devait créer pour promouvoir les structures. Parce que les plastiques, là, la solution durable, c'est seulement les recyclages.
En plus bref, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, les services de sécurité, avec l'aide de quelques jeunes, ont arrêté hier samedi une dizaine de jeunes voleurs à main armée qui opéraient dans la région de Bassi-Salé, une zone de production de cacao située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la commune rurale de Oicha. Le rapporteur de la société civile dans le territoire de Beni précise que ces jeunes s'étaient déguisés en rebelles des ADF pour terroriser les agriculteurs dans leurs champs de cacao afin de s'emparer de leurs récoltes. Kassaï-Rio saisit cette occasion pour lancer un appel aux jeunes de quitter la brousse et de se désolidariser de tous les groupes armés qui insécurisent la région. Toujours au Nord Kivu, la situation est restée tendue ce dimanche dans la région de Kibumba, territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Des affrontements à l'arme lourde ont opposé les FRDC et leurs alliés contre l'ennemi, le M23, appuyé par le Rwanda. La population a rapporté des détonations d'armes lourdes depuis tôt le matin. Les motos transportant des passagers et marchandises entre Goma et Kiwanja ont dû rebrousser chemin dans la matinée selon des sources locales. Deux bombes sont tombées sans faire des victimes dans le groupement Kibati, notamment au village Buhama, non loin d'un camp de déplacés, affirme la société civile. L'intensité des combats a baissé dans la soirée, mais le trafic n'a pas repris. Les tirs étaient entendus encore dans le parc des Virunga. Cependant, les armes se sont tues samedi et ce dimanche sur l'axe Ngungu et Massissi Centre, où la situation reste tout de même imprévisible d'après nos sources. Et puis, dans le territoire de Lubero, un afflux de déplacés est signalé depuis mercredi dans les localités voisines de Kitsombiro. Ce sont des ménages venus de la partie sud du territoire de Lubero, notamment d'Alimbongo et de Kasehe. La société civile territoriale indique que ces personnes ont trouvé refuge dans des familles d'accueil pour certaines et pour d'autres dans les sites de déplacés de Masereka et Moussienene où elles sont sans aucune assistance. L'administrateur du territoire de Lubero confirme cette information et précise que des plaidoyers sont en cours concours auprès du gouvernement et de ses partenaires humanitaires pour une assistance à ces vulnérables. Le colonel Alain Kiwewa précise toutefois qu'une accalmie est observée dans la zone, ce qui permet aux habitants qui sont dans les zones sous contrôle de l'armée d'aller dans leurs champs et de mener d'autres activités socio-économiques. En Ituri, les miliciens de la CODECO ont instauré depuis environ un an une administration parallèle dans trois groupements de la chefferie de Mokambo, à environ 300 km de Mahagi Centre. C'est ce que dénonce la société civile locale. Elle précise que ces miliciens font payer des taxes illégales sur différentes routes lors des travaux communautaires et exigent des cotisations aux propriétaires de palmeraies. Une pratique que déplore la société civile de la chefferie de Mokambo, sans oublier plusieurs cas d'arrestations arbitraires de civils, pour la plupart des personnes retournées dans leur village et qui sont déjà appauvries par des années d'errance. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis environ un an qu'un groupe de miliciens de la CODECO s'est installé dans plusieurs localités de la chefferie de Mokambo, dans le territoire de Mahagi. Il s'agit entre autres de Wala, Biki, Go ainsi que Terali, qui partagent la limite avec le secteur de Walendupiti, où ils ont instauré une administration parallèle. Selon des sources locales, ces miliciens ont leurs tribunaux où ils organisent des procès et tracassent les civils qui ne se soumettent pas à leur ordre. Les mêmes sources ajoutent que ces miliciens utilisent parfois des habitants de ces localités comme main d'œuvre pour construire leurs abris. Cette situation inquiète la société civile locale qui demande à l'armée de déloger ces hors-la-loi. Grégoire Tumitu, président de cette structure.
Les éléments CODECO qui sont dans cette région récupèrent les plaintes, les dossiers qu'ont les gens, vous savez, avec le déplacement de la population. Il y a des vols des régimes des palmiers qui se fait. Alors, la population doit cesser de porter plainte auprès de ces assaillants-là parce que c'est une manière de renforcer l'administration parallèle et aussi d'affaiblir l'autorité de l'État.
L'administrateur du territoire des Mahagi dit être au courant de la présence de ces miliciens dans cette zone où s'observe aussi un faible effectif des militaires et des policiers pour garantir la sécurité des civils. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
La régie des voies aériennes RV de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu monte au créneau et dénonce la spoliation d'une partie de sa concession par des personnes qui, selon elle, restent encore non identifiées. D'après son commandant Portas Makolo, ces personnes ont déjà placé une pancarte et déposé certains matériels pour démarrer les travaux de construction dans cette concession aéroportuaire. Il demande aux autorités compétentes de diligenter des enquêtes afin de mettre la main sur ces spoliateurs. Portas Makolo, commandant de la RVA Bandunduville, est avec Irène Mbomaluzolo.
Nous avons été informés par un policier des titres fonciers. Nous avons vu une pancarte qu'on a plantée au milieu de la concession aéroportuaire. Notre pancarte était aussi là-bas, mais ils viennent placer encore une autre pancarte. C'est comme ça. Nous avons saisi les autorités, ma hiérarchie, qu'on saisisse le ministre de la Justice de façon qu'on ouvre l'enquête pour arrêter les gens qui sont là-bas souvent de ça. Quand il a une difficulté d'argent, il vend. Et les premiers jours quand nous sommes allés, nous avons seulement trouvé la pancarte. Mais la nuit, ils sont allés déposer les caillasses. C'est aujourd'hui qu'on vient de m'informer qu'il vient encore de déposer le moellon. Ils tiennent à construire. Il y a le titre foncier qui vient de refuser, il ne connaît pas ça. Là où les colonels Lenga Lenga et Lutonadio avaient perdu leur vie, moyennant crash d'un avion. Pour maintenant, comment tu peux aller là où il y a eu crash et toi tu vas aller vendre ça? Vraiment, je demande une commission d'enquête pour voir qui a vendu. Ils doivent être déférés en justice.
La digitalisation des services, la modernisation des réseaux et la planification stratégique de la production énergétique, ce sont là les axes prioritaires de la Société nationale d'électricité SNEL pour l'année 2025. Son directeur général, Fabrice Lucinde, l'a fait savoir ce week-end à Kinshasa à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux. Une année que la SNEL place sous le signe de la redevabilité et du retour à la planification. Le point avec Jacques-Yves Molima.
L'année 2025 est une année de défis, mais également d'opportunités pour consolider les bases d'un avenir énergétique durable en RDC. Ainsi l'a indiqué le directeur général Fabrice Lucinde. D'où ces nouveaux axes prioritaires, notamment la digitalisation des services à la clientèle. Celle-ci permettra une facturation plus précise et une meilleure transparence. Et puis, la modernisation des réseaux de distribution. Il s'agira d'optimiser des données de consommation et d'intervenir plus rapidement en cas de panne et offrir un service plus fiable et réactif. Enfin, la planification stratégique de la production. La SNEL attend mettre un accent particulier sur une production énergétique accrue et mieux répartie à travers les provinces. Pour accompagner ces défis, le directeur général Fabrice Lucindé compte s'appesantir sur la communication dynamique et transparente. La redevabilité doit se matérialiser à travers une communication efficace, a-t-il souligné, tout en rappelant que la SNEL doit être à l'écoute de ses clients et partenaires pour garantir un service de qualité. Notons qu'en cette année 2025, la SNEL célébrera ses 55 ans d'existence.
Le monument Place Major Vango dans la commune d'Ibanda à Bukavu est complètement innové grâce au financement de l'organisation internationale World Resources Institute, WRI, en collaboration avec la mairie de la ville. Le maire intérimaire, professeur Augustin Rouchogueza, rassure que la cellule de brigade d'hygiène et d'assainissement urbain va veiller à cet ouvrage qui, selon lui, rivalise avec d'autres sites touristiques de la province du Sud Kivu. Il a déclaré hier samedi en présence de la délégation de l'ONG partenaire qui a financé le projet dans le cadre de la lutte contre les catastrophes liées au changement climatique.
La mairie de Bukavu est heureuse de recevoir cette œuvre qui est un symbole emblématique pour la ville de Bukavu. De la même manière que nous recevons la place de l'indépendance, nous recevons également la place Major Vangu. Et donc pour nous, la mairie, nous devons capitaliser les efforts des uns et des autres pour que finalement, cette œuvre constitue un lieu vraiment de visite, que ça soit un site touristique pour que les gens quand même qui arrivent à Bukavu ne puissent pas quitter Bukavu sans pour autant arriver à la place Major Vango. Parce que si vous regardez dans la ville de Bukavu, ils sont rares les endroits qui ont encore un espace comme celui-ci. Raison pour laquelle nous devons aussi intensifier les énergies, demander à la population de pouvoir les protéger et de garder un bon père de famille. Nous avons notre cellule de l'hygiène et brigade d'assainissement et nous, mairie, nous devons toujours être derrière cette équipe dans l'intervalle d'une année. Vous verrez que cet ouvrage est toujours protégé.
Trois jeunes diplômés du secondaire ont effectué hier samedi sur le lac Kivu un premier essai de leur projet d'hydravion. Diplômé en mécanique générale de l'Institut Tororo, Ushin Dimitima et ses amis David Chinega et Victor Chituli, diplômés en électricité générale, ont conçu ce projet. Après 6 mois de travail, ces jeunes, dont l'âge varie entre 19 et 21 ans, ont réussi à produire un modèle hybride, un bateau à moteur thermique combiné à un système solaire. Sifa Maguru nous en parle.
Ce génie innovant des jeunes locaux a émerveillé la population ce samedi au port public de Goma. Après ce premier essai, ce jeune prévoit bientôt tester l'accélération et le décollage d'après les explications du jeune Ushin Dimitima.
Normalement, nous prévoyons faire 2 essais. Et ce qu'on a fait hier est de flotter et de naviguer sur l'eau. La deuxième, ça sera alors pour voler. Le moteur, c'est prévu qu'il puisse accélérer à une vitesse de 50 km, voire même 70 km à l'heure, vu la capacité de moteur qu'on a. Parce que le moteur tourne à 3600 tours par minute, donc nous avons estimé le coût de l'hélice et le frottement de l'air sur l'hélice, nous l'avons réduit à 3000 tours par minute. Tu veux dire 50 km à 70 km à l'heure. Le C qu'on a fait hier, c'était une réussite vraiment. Mis à part que les moteurs nous ont causé quelques imprévus, nous avons déjà une solution pour ça.
Ces jeunes ont baptisé leur projet Congo Innovation et effectuent tous les travaux au chantier naval situé à Kituku au bord du lac Kivu. Ushin Dimitima ajoute que lui et ses amis comptent entamer l'université après cette expérience. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Actualité internationale.
3 personnes ont trouvé la mort à la suite des pluies diluviennes qui ont accablé le nord de Madagascar, pluies apportées par le cyclone Dikeledi qui balaye cette région de l'océan Indien. Au moins 920 personnes ont aussi été sinistrées, principalement dans le district de Hoemar, connu pour sa production de vanille, où le cyclone a atterri hier samedi soir. Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes qui a fait cette annonce ce dimanche, les prévisionnistes continuent de suivre attentivement la trajectoire du cyclone Dilekedi. Et le scénario revenant s'abattre sur le sud de l'île n'est pas encore totalement à écarter, a mis en garde le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar.
L'invité.
L'invité du journal, c'est le professeur Jean-Pierre Lifoli-Balea. Il est le secrétaire rapporteur et président intérimaire de l'Association des professeurs de l'Université de Kisangani. Il parle du document d'entente et de collaboration avec l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Dans cet entretien avec Jacques Moukonkolé, il précise la motivation ainsi que des avantages de cet accord. Suivez.
Professeur Jean-Pierre Lifoli, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de signer un document d'entente de collaboration avec la PIKIN, l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie cet acte?
Cet acte est très important pour nous, dans la mesure où, depuis longtemps, la PIKIS et la PIKIN collaborent. Mais cette collaboration-là n'est pas formalisée. Par exemple, nous, quand nous nous déplaçons, nous allons à Kinshasa pour les démarches, et si nous avons un problème de logement, ce sont nos collègues de la PIKIN qui nous logent. Et nous, quand nous avons certaines démarches à mener au niveau des ministères, ainsi de suite, ils nous accompagnent. Raison pour laquelle, sachant que les hommes passent, mais les institutions restent, c'est ainsi que nous avons estimé qu'il est temps que nous puissions mettre par écrit ce que nous faisons comme collaboration pour que même si les comités actuels qui sont là en train de gérer nos associations arrivaient à la fin de leur mandat, comme c'est le cas par exemple, ceux qui vont venir puissent trouver des documents qui peuvent leur permettre de continuer cette collaboration-là.
Quels sont les objectifs poursuivis en mettant en place ce cadre de collaboration formelle?
Nous avons d'abord voulu favoriser la coordination et l'harmonisation des actions que nous menons pour la défense des intérêts de nos membres, c'est-à-dire les membres de la PIKIS et les membres de la PIKIN. Et pour cela, nous avons essayé de mettre en place ces partenariats dans un certain nombre de domaines.
Quels sont ces domaines de collaboration?
Par exemple, l'échange d'expérience sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique aussi. Vous savez que à ces niveaux-là, nous avons un problème parce que nos universités ne sont pas rangées parmi les meilleures au niveau de l'Afrique et même au niveau mondial. Alors nous avons dit que si nous travaillons ensemble, si nous avons des projets ensemble, nous allons contribuer à la publication aussi, nos universités seront visibles et nous serons bien cotés. Et ce travail-là, c'est le travail que les professeurs font. Et aussi, nous avons dit que nous devons promouvoir des projets de recherche ensemble. Vous savez aujourd'hui que quand vous travaillez en solo, vous n'êtes pas efficace. Mais si vous vous réunissez, vous allez être fort. Imaginez, aujourd'hui, l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa a plus de 1000 professeurs, près de 1300 professeurs. Nous, ici, à l'INIKIS, nous sommes autour de 260. Vous voyez. Et si ensemble, nous avons l'habitude de mettre en commun nos idées, je pense que nous allons faire un travail important. La participation à l'évaluation des thèses, des doctorats, par exemple. Vous voyez, la loi a dit que pour constituer des jurys, il faut qu'il y ait des membres en dehors de votre université, les membres des autres universités. Alors, dans ce domaine-là, nous savons très bien que lors des conseils des départements, des conseils des facultés, ce sont les professeurs qui proposent au comité de gestion des membres. C'est ainsi que nous avons dit, en tout cas, à ce stade-là, nous devons faire un effort pour connaître les domaines de recherche de chacun pour que s'il y a une activité dans ce sens-là, que ce soit quand même une thèse qui sera bien évaluée avec les collègues d'autres universités qui seront cités non pas par sentiment puisque nous connaissons leur domaine de recherche.
Oui, professeur, mais cela a toujours été fait. On a toujours vu des professeurs qui viennent d'autres universités.
Mais pour l'instant, je préfère vous dire que parfois ça s'est fait de manière fantaisiste. Parfois ici, on peut mettre un professeur de telle institution, puisqu'on sait qu'il ne viendra pas, mais celui qui va participer, c'est un suppliant qui a été désigné par des fins. Puisque jusqu'à présent, nos institutions n'ont pas encore disponibilisé les fonds pour faire appel aux professeurs pour qu'ils viennent ici, leur séjour, tout simplement pour évaluer les étudiants. C'est ainsi que nous avons dit, si nous avons ces partenariats-là et que nous les faisons, on peut même le faire par visioconférence, mais ça va se faire réellement et non pas faire des choses par fantaisie ou par sentiment pour tromper l'opinion et tromper aussi même le ministère des tutelles, que nous respectons la loi.
Et professeur, il existe déjà des textes réglementaires, des cadres, n'est-ce pas, et où tous ces aspects des choses, notamment les textes du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, les organisations syndicales existent, la PECUS et la PECUN. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce partenariat?
Ce qui est de nouveau, c'est la prise en charge des problèmes concrets des professeurs de l'université de Kisangani et ceux de l'université de Kinshasa qui sont réunis au sein de ces deux associations, des problèmes qui ne sont pas les mêmes par rapport aux problèmes d'autres institutions. Je vois par exemple l'université de Kisangani, l'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi. Ce sont les trois premières grandes universités publiques du pays qui ont une ancienneté. Les problèmes que nous avons ne sont pas les mêmes comme une université qui vient de naître il y a 3, il y a 5 ans.
Professeur Jean-Pierre Lifoli, merci.
Je vous remercie aussi.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa, un journal supervisé par Jude Bilanda Kumar et présenté par Noëlla Luzito Kabambi. Merci à vous tous de l'avoir suivi et restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.